l'écoute de RFI, 3h30 en temps universel, il est 4h30 ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Afrique Matin qui commence, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité du continent et on commence avec le journal à la une ce matin. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie lançait sa guerre contre l'Ukraine. Ce matin, RFI est à Kiev, édition spéciale en direct de la capitale ukrainienne à partir de 6h10, temps universel. Dans ce journal, on se penche sur la position de l'Afrique face à ce conflit, le continent qui jongle entre ses intérêts en Russie et en Ukraine. Week-end relativement calme sur le front de la guerre dans l'est de la RDC, mais week-end politique, Joseph Kabila est sorti du silence. Dans une tribune publiée dans la presse, l'ancien chef de l'État estime que la RDC est, je cite, « au bord de l'implosion ». Au sommaire également, on est au Nigeria, où une centaine de bronzes volés il y a plus d'un siècle par les soldats britanniques vont retrouver le chemin de Lagos. Et puis à Paris, où la Côte d'Ivoire fait goûter ses spécialités au salon de l'agriculture. Et vous l'entendrez, les visiteurs sont conquis. Le jour n'était pas encore levé au-dessus de Kiev, que les bombes russes illuminaient le ciel. Il était 4h du matin ce 24 février 2022, lorsque les troupes russes franchissaient la frontière avec l'Ukraine. 3 ans et des dizaines de milliers de morts plus tard, l'opération militaire spéciale s'est transformée en guerre totale et les enjeux diplomatiques et économiques se sont mêlés au conflit. Ce matin, on revient sur la position de l'Afrique face à cette guerre, une position souvent neutre, comme l'explique le spécialiste en géopolitique Emmanuel Dupuis.
Un certain nombre de pays africains n'ont pas voulu se départir de leurs relations diplomatiques équilibrées entre les deux, soit en ne participant pas au vote des résolutions onusiennes, soit en s'abstenant, ou alors en changeant leur position, de l'abstention à la négation. Et un certain nombre de pays qui sont dépendants de la livraison de produits agricoles, de céréales ou d'engrais, ne veulent se fâcher ni avec l'un ni avec l'autre, car les engrais ukrainiens et les engrais russes transitent par la mer Noire. Le Maroc joue ce rôle, qui ne s'est fâché avec aucun des deux. Le Maroc entend garantir une relation de soutien aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à l'intangibilité des frontières. Il en va aussi de sa propre intangibilité des frontières avec la question du Sahara. Et donc, de facto, elle soutient mordicus l'idée que l'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être défendue. Mais en même temps, le Maroc a besoin de la Russie au sein du Conseil de sécurité pour qu'elle ne mette pas son veto dans les résolutions onusiennes concernant la question du Sahara. Donc d'une certaine façon, le Maroc a joué les deux.
Propos recueillis par Christina Okello, il y a donc les implications diplomatiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais cette guerre s'exporte aussi en dehors de l'Europe. C'est le cas au Soudan, Willy Diallo, où Kiev et Moscou se sont affrontés dans la guerre qui oppose deux généraux, Al-Burhan et l'armée d'un côté, et Emeti et les paramilitaires de l'autre.
Dans les premiers temps du conflit, l'Ukraine et la Russie ont chacun soutenu leur général. L'Ukraine s'est rapprochée du général Al-Burhan. Des troupes ont été déployées dans Khartoum dans un premier temps, puis ce partenariat s'est principalement axé sur des échanges commerciaux qui ont fini par s'estomper. Côté russe, les mercenaires de Wagner ont commencé par intervenir auprès des forces de soutien rapide du général Emeti. Puis, à la mort de Prigojine, Moscou a repris la main sur Wagner et décidé de changer de camp. La Russie soutient désormais le général Al-Burhan. Objectif, réactiver les accords de 2007 afin d'obtenir une base militaire russe en mer Rouge pour compenser la perte d'influence et de capacité logistique en Syrie. Pour l'obtenir, la Russie a donc choisi de proposer armes et soutien au général Al-Burhan.
Willy Diallo, sur le front de la guerre au Soudan, justement, l'armée a dit hier avoir brisé le siège autour de la ville d'El Obeid, c'est dans le sud du pays. Le ministre soudanais des Finances parle de victoire stratégique. Côté diplomatique, c'est plutôt la colère qui domine à Port-Soudan, colère autour d'une charte signée ce week-end à Nairobi. Le chef des paramilitaires, le général Emeti, et 24 organisations de la société civile, partis politiques et groupes armés se sont mis d'accord sur une charte, un document qui jette les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Gaël Alex, aujourd'hui le Kenya est très critiqué pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol.
Dès hier, le gouvernement de Port-Soudan a décidé d'arrêter d'importer du thé kényan, selon un communiqué du ministère de l'Information. Le Soudan en est un des premiers consommateurs. Après le déclenchement de la guerre en 2023, les exportations kényanes avaient chuté de plus de 70%, selon le bureau du thé du Kenya. Les retombées seront aussi diplomatiques. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio. Sur X, le président kényan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de lancer un processus de paix. Sur le même réseau social, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'indigne que le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur règne génocidaire. Le général Emeti est en effet sous sanction américaine depuis janvier. Dans un communiqué publié ce week-end, la Commission kényane des droits de l'homme accuse également William Ruto de saboter tous les efforts panafricanistes. Elle rappelle que lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité a condamné toute ingérence extérieure dans le conflit soudanais. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et de son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères a déclaré que le Soudan n'accepterait pas d'autres que d'autres pays reconnaissent ce gouvernement parallèle. 3h36 en temps universel. Week-end relativement calme sur le front de la guerre dans l'est de la RDC. Pas de combat signalé au nord dans le Lubero, ni au sud dans le Sud Kivu. Sur le plan humanitaire, en revanche, la situation est toujours très difficile. Le 9 février dernier, le M23 soutenu par le Rwanda a exigé l'évacuation des camps de réfugiés autour de Goma. Résultat, des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue. C'est ce qu'explique Eugene Buin, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés.
La situation est volatile et les gens ne cessent de bouger. Dans le Nord Kivu, les combats poussent des milliers de déplacés à fuir à nouveau. Mais la plupart n'ont nulle part où aller. 60 à 70% des sites de déplacés ont été détruits. Où sont-ils partis? Difficile à dire. Certains ont peut-être rejoint une ville voisine, d'autres sont toujours à Goma. Ce que l'on sait, c'est que des déplacés trouvent refuge dans des hôpitaux, des écoles vides ou des bâtiments abandonnés. Beaucoup dorment aussi dans la rue. Mais pour tous ceux hors de portée, impossible d'en avoir une estimation. Au Sud Kivu, la situation est similaire. Le conflit s'étend, poussant des déplacés vers Bukavu. Certains traversent même la frontière vers le Burundi. Mais faute d'accès, leur nombre reste inconnu. Et si les combats continuent à l'est du pays, ce chiffre ne fera qu'augmenter.
Et c'est dans ce contexte que Joseph Kabila est sorti du silence. Première déclaration de l'ancien chef de l'État congolais depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2019. Dans une tribune publiée dans un journal sud-africain, il accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique. Il estime que la solution pour mettre fin au conflit n'est pas militaire. Message adressé aussi à l'Afrique du Sud, l'un des soutiens de Kinshasa. L'actuel président congolais, lui, a réuni la majorité présidentielle samedi. Rendez-vous au cours duquel Félix Tshisekedi a campé sur ses positions, à savoir pas de dialogue direct avec le groupe armé M23 qu'il a qualifié de pantin du Rwanda. Et c'est justement au Rwanda, à quelques kilomètres seulement de la frontière congolaise et des villes prises par le M23, que doit passer à partir de mercredi le peloton du Tour cycliste du Rwanda. La 17e édition s'était lancée hier de Kigali, mais le contexte sécuritaire a pu faire craindre l'annulation de la course. Inquiétude aussi sur la tenue des premiers championnats du monde sur le sol africain. Ils sont prévus en septembre au Rwanda. Fin janvier, l'Union cycliste internationale disait suivre de près l'évolution de la situation. Et hier, son président, David Lapartien, était en visite officielle à Kigali et il est désormais très confiant.
Nous, on n'a pas de doute sur le fait que les championnats du monde vont se tenir au mois de septembre. Et je crois que le Tour du Rwanda donnera finalement cette confirmation que le pays est sécurisé et donc qu'il n'y a pas de risque pour ces championnats du monde.
Alors, il y a la question de la sécurité, il y a aussi forcément une question éthique qui peut se poser.
Moi, je laisse le soin aux gouvernants de régler les sujets. Et on voit qu'il y a des discussions en cours. Et naturellement, l'UCI, mais comme le mouvement sportif, appel à la désescalade, appel à la paix, c'est notre rôle. Et nous veillons à deux, trois choses. Un, notre autonomie. Nous prenons nos décisions de manière autonome. Deux, nous sommes politiquement neutres. Ça n'empêche pas d'avoir un avis, parfois sur des sujets qui pourraient déraper, d'émettre un avis ou de reconsidérer certaines positions. Mais là, aujourd'hui, très clairement, les conditions sont remplies pour que ces championnats du monde se déroulent.
Le président de l'Union cycliste internationale au micro RFI de Thomas de Saint-Léger est toujours sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Notez que les chefs d'état-major de l'EAC ont conclu leur discussion vendredi à Nairobi. Leurs conclusions seront examinées aujourd'hui lors d'une réunion conjointe EAC-SADC à Dar es Salaam. Première étape dans la mise en œuvre des décisions du sommet du 8 février dernier. En bref, au Rwanda, dernière audience en appel aujourd'hui à Kigali dans l'affaire du procès d'oléoduc controversé mené par Total Energy. Il doit relier les réserves pétrolières du lac Albert en Ouganda au port tanzanien de Tanga. 4 ONG ougandaises et tanzaniennes ont poursuivi leur gouvernement pour mettre fin au projet. Les défenseurs de l'environnement et des communautés déplacées par les constructions avaient déposé il y a plusieurs années un recours à la Cour est-africaine de justice. Elles avaient été volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, aujourd'hui situé au Nigeria. 113 statuettes de bronze vont être restituées au Nigeria par les Pays-Bas. Un accord a été signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la Commission nationale nigériane des musées et monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. Olivier Roger.
En 1897, les troupes coloniales britanniques pillent les palais du peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, raflant des bronzes anciens fondus entre le 16e et le 18e siècle. Les statuettes sont ensuite envoyées en Angleterre. Comment ont-elles fini en Hollande? Réponse avec le consul néerlandais à Lagos, interrogé par la télévision nigériane.
En fait, elles ont été achetées aux enchères. Je crois que lorsque les œuvres pillées arrivaient au Royaume-Uni, une partie finissait dans les musées, une autre était revendue. Le musée de Leiden, à l'époque, un musée ethnographique, en a acheté une série. Et c'est comme cela que ces œuvres sont arrivées aux Pays-Bas.
Ces bronzes, représentant notamment des figures de cour, ont une valeur symbolique importante pour le peuple Edo. Avec cette restitution de 113 pièces, dont plusieurs dizaines arriveront dès cette année à Lagos, les autorités néerlandaises posent le premier acte d'une politique de restitution, politique entamée en 2020 par un minutieux travail d'identification des œuvres présentes dans les musées hollandais. La Haye propose en outre aux autorités nigérianes de partager ses connaissances en matière de conservation du patrimoine.
Olivier Roger du service culture de RFI. Allez, direction le salon de l'agriculture avant de refermer ce journal. Ce rendez-vous international des éleveurs et agriculteurs a ouvert ses portes ce week-end à Paris. Une dizaine de pays africains sont présents pour faire découvrir leur spécialité. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, dont les producteurs savent comment attirer les visiteurs. Reportage dans les allées du salon, Penaï Traoré.
Vivre une ambiance abidjanaise en étant au salon de l'agriculture à Paris. C'est le secret de la Côte d'Ivoire pour attirer du monde et mettre la lumière sur ses produits phares. Et ça marche.
En fait, on est voir le chocolat et puis on a découvert aussi la mangue qui a l'air très très bonne. Enfin, qui est très très bonne, j'ai goûté.
Je vais finir le paquet. C'est très très bon et en plus, ça permet aussi de découvrir un petit peu les épices de la Côte d'Ivoire.
Ce jeune Ivoirien vivant en France ne cache pas son enthousiasme.
J'apprécie ma culture, donc je profite de l'occasion. Je prends des images pour me rappeler, pour me souvenir. Je photographiais non seulement la fonte et le chocolat, pour dire que vraiment la Côte d'Ivoire était présente. Et vous voyez l'ambiance que la Côte d'Ivoire met ici, contrairement aux autres pays.
Même si la Côte d'Ivoire est connue pour son café et son cacao, elle entend promouvoir d'autres produits récemment labellisés. Drissa Kone est le conseiller économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris.
La Côte d'Ivoire a 3 produits aujourd'hui qui sont reconnus au niveau international. La chicorée de Côte d'Ivoire vient d'être labellisée par l'UNESCO. Et également, on a les pains de baoulé et le café de Dizzy Mountain. Donc l'occasion est donnée de pouvoir déguster les produits ivoiriens.
La délégation ivoirienne profitera de sa participation au salon de l'agriculture pour inciter la diaspora à investir dans des filières comme le coton et l'anacarde.
Reportage de Penaï Traoré. Il est 3h44 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Plus d'un an après le coup d'État au Niger, les commerçants du Bénin sont toujours victimes des tensions entre Cotonou et Niamey. Afrique Économie est en reportage à la frontière dans quelques minutes. L'aluminium russe dans le viseur des Européens. Les 27 s'apprêtent à lancer leur 16e paquet de sanctions contre Moscou. On en parle avec Marie-Pierre Olfan. Et puis on est à Mayotte avec nos confrères de La Première. Ce matin, rencontre avec des étudiants en architecture chargés de réfléchir à la reconstruction de l'archipel. Mais d'abord, c'était il y a 3 ans, les troupes russes franchissaient la frontière et entraient en Ukraine. 3 ans et des dizaines de milliers de morts plus tard, la guerre est loin d'être terminée et elle s'exporte même sur le terrain idéologique. Exemple à Madagascar, où des groupes pro-russes relaient le discours de Moscou. C'est le cas d'une association de Tana, les Amis de la Russie à Madagascar. Elle compte 1000 membres environ et notre correspondante Pauline Le Troquier en a rencontré quelques-uns. Reportage.
Richard Akoutounerine nous accueille chez lui, un drapeau russe sur la table basse, un autre brodé sur sa chemise, signe de son attachement au pays où il a étudié 10 ans, signe tout aussi politique, dit-il. Comme depuis 3 ans, le président des Amis de la Russie partage ouvertement le narratif d'un conflit qu'il refuse de qualifier de guerre.
C'est une opération spéciale militaire de dénazification. Si les groupes extrémistes se trouvent à la porte de votre pays, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger votre indépendance. C'est normal la réaction du président Poutine.
L'association relaie sa lecture du conflit en ligne ou lors de conférences organisées aux quatre coins de l'île. Le discours imprime auprès d'une partie du monde intellectuel malgache sur fond de rejet d'un narratif occidental.
Les médias occidentaux ne veulent pas comprendre les événements, mais la réalité est là. L'Ukraine, il ne différencie pas les objectifs et les cibles, mais tout à fait contraire avec le président Poutine. Il opère dans les zones militaires, zones sensibles stratégiques, matérielles.
Le 11 mars 2022, aux premières heures de l'offensive russe en Ukraine, une trentaine de manifestants érigent des banderoles de soutien à Moscou devant l'ambassade russe à Madagascar. L'événement est structuré, n'a rien de spontané et bien qu'isolé, laisse deviner l'influence de réseaux activistes russes à l'intérieur du pays. De quoi questionner la neutralité affichée par les autorités malgaches, comme l'estime Serge Zafmaouv, analyste géopolitique.
La neutralité se discute, hein. Faut pas oublier que Wagner a été actif dans les élections malgaches. Donc c'est une neutralité engagée, je dirais.
Les affinités entre les deux pays n'ont rien d'étonnant pour ce spécialiste qui y voit l'héritage de liens historiques.
Il y a beaucoup d'anciens de la Russie, en fin de compte, au sein de l'administration malgache, civile et militaire. Donc c'est un vecteur qui permet à certaines personnes de dire qu'on peut de toute façon de faire évoluer les relations de Madagascar dans la multipolarité dans laquelle joue la Russie. Par exemple, les BRICS.
La portée de ces voix pro-russes reste limitée au sein de l'opinion publique malgache. Cette dernière suit de loin l'évolution d'un conflit dont les conséquences pèsent lourd sur le coût de la vie. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Les 3 ans de la guerre en Ukraine, on en parle tout au long de la matinée sur la radio du Monde. RFI est à Kiev, édition spéciale en direct de la capitale ukrainienne. Andréane Mellard et ses invités vous donnent rendez-vous à partir de 6h10, temps universel.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Les 3 ans de la guerre en Ukraine à la une, évidemment, de l'actualité internationale aujourd'hui. Et le front semble aujourd'hui figé dans la région du Donbass, comme autour de Koursk en Russie. Petite zone désormais contrôlée par l'Ukraine. Aujourd'hui, le Royaume-Uni doit annoncer un nouveau train de sanctions contre la Russie. Alors que Moscou dit prévoir une nouvelle réunion avec des représentants américains qui lui sont désormais favorables à la fin de la semaine. L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'Allemagne. Résultat des élections législatives anti d'hier et victoire des conservateurs, la CDU de Friedrich Merz, les démocrates chrétiens qui devancent l'AfD, le parti d'extrême droite, avec un score record, 20,8% des voix, et le SPD du chancelier sortant Olaf Scholz, SPD qui lui réalise le plus mauvais résultat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 16% des suffrages exprimés. Et puis un procès hors norme au regard du nombre de victimes, le procès de Joël Le Skouarnec s'ouvre aujourd'hui en France devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes. L'ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 jeunes patients. Sans doute la plus grande affaire pédocriminelle jugée en France. Le procès doit durer jusqu'au mois de juin. d'un côté, Malanville au Bénin de l'autre, Gaïa au Niger. Entre les deux villes, le pont qui traverse le fleuve Niger reste désespérément bloqué. Conséquence des tensions entre les deux voisins, nés après le coup d'État à Niamey. Depuis, le Bénin a rouvert son côté de la frontière, mais pas les autorités nigériennes. Alors pour les commerçants, très nombreux dans la zone, il a fallu s'adapter et franchir la frontière en pirogue. C'est l'Afrique Écho du jour, signé Magali Lagrange.
On a chargé au moins plus de 7 000 sacs pour cette semaine. Sur le marché bas son plein, on décharge plus de 15 000 sacs. 15 000 sacs par semaine.
Des camions chargent et déchargent à l'entrée du marché de Malanville. Souley Issifou est grossiste. Il se tient près de pile de gros sacs de haricots en provenance du Nigeria et du Niger, même si les autorités nigériennes ont interdit en octobre l'exportation de produits vivriers, dont le niébé.
Oui, ça passe. L'homme a tous les moyens pour pouvoir passer. On se comprend parce que c'est la population qui en souffre. Bon, pour faire venir actuellement l'haricot du Niger, on passe par le Nigeria. Il passe par des voies clandestines pour pouvoir nous approvisionner. Donc, c'est un risque. Et les produits augmentent beaucoup de prix au niveau du transport et au niveau des prix d'achat. Actuellement, nous vendons les haricots à 44 000 francs pour le Niger.
Certains échanges entre le Bénin et le Niger se font par voie terrestre via le Nigeria, d'autres par pirogue sur le fleuve Niger qui sépare les deux pays. Salifou est chauffeur de camion. Avant la fermeture de la frontière, il allait jusqu'au Niger. Maintenant, il s'arrête à Malanville et doit patienter plusieurs jours pour pouvoir décharger.
On décharge au bord de l'eau. Mon camion est là-bas. Maintenant, on ne trouve pas pour décharger même jour. On fait 5 jours, 6 jours avant de décharger. C'est pas hors d'arrivée, on décharge. Ce matin, je suis en 79, ouais. 69e, je suis. Comment on va faire? On n'a pas l'argent de l'hôtel. On dort en bas des camions avec les moustiques. On est chauffeur, gardien.
La levée de l'interdiction de la traversée du fleuve a un peu apaisé la situation économique à Malanville. Mais cette alternative ne convainc pas tout le monde et pour certains détaillants du marché, la situation est encore loin d'être réglée.
Lorsque les frontières étaient complètement fermées, donc les gens ne passaient pas, ils arrivaient vraiment à faire une semaine sans rien vendre. Maintenant, lorsque ils ont autorisé que les gens passent par fluvial, au moins ça a changé un peu. Mais pas comme auparavant, donc, c'était complètement ouvert. Ce sont d'abord les Nigériens qui arrivent à Malanville, qui achètent beaucoup. Même ceux qui viennent en même temps d'abord sur le frontière là-bas, là, on les bouleverse, donc on les dérange même des fois. Donc ils sont pressés de quitter Malanville, ce qui nous empêche maintenant la clientèle.
Les commerçants de Malanville continuent d'espérer la réouverture de la frontière avec le Niger. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Reportage d'Afrique Économie à retrouver sur RFI.fr. « 3h52 en temps universel, c'est une constante depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Union européenne sanctionne la Russie, des sanctions essentiellement économiques. Et aujourd'hui, troisième anniversaire du début de la guerre oblige, les 27 doivent formellement adopter le 16e paquet de sanctions. On en parle dans la chronique des matières premières avec vous, Marie-Pierre Olfan, puisque les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont accordés pour interdire les importations d'aluminium russe.
Oui, il faut préciser que cette mise au ban de l'aluminium russe n'est pas totalement une surprise pour la filière européenne. Tous ceux qui en achetaient s'y sont en effet préparés, que ce soit par anticipation de sanctions à venir ou pour une question d'image. Les importateurs ont considérablement réduit leurs achats en provenance de Russie. La dépendance de l'UE est donc faible. Aujourd'hui, l'aluminium russe représenterait moins de 10% de l'approvisionnement européen contre environ 50% avant la guerre. Les niveaux de devrait encore maintenant diminuer. Les Européens se donnent un an pour supprimer totalement l'aluminium russe de leur carnet de commandes.
Est-ce que cette décision européenne, elle peut avoir un impact sur le prix de l'aluminium ?
Alors sur le papier, oui, car les prix ont tendance à monter dès qu'il y a une restriction d'approvisionnement, mais parfois l'impact est mineur car le marché a déjà intégré que le produit allait manquer. Et c'est ce que les experts disent sur l'aluminium. Les cours ont déjà anticipé qu'il faudra faire sans l'aluminium russe. L'impact sur les prix devrait être aussi limité en raison de la demande qui est faible en Europe en ce moment. Mais même s'il n'y a donc pas de forte tension à l'horizon, cela n'a pas empêché les prix de réagir dans la foulée de l'annonce des Européens mercredi dernier.
Et Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il va se passer pour l'aluminium russe ? Est-ce qu'il va trouver d'autres débouchés ?
Alors, ce qui est certain, c'est que ces sanctions vont contraindre un peu plus la Russie à réorienter ses exports, ce qu'elle a évidemment déjà commencé à faire en exportant sans surprise beaucoup plus vers la Chine. Les importations chinoises d'aluminium russe ont grosso modo quadruplé entre 2021 et 2024.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières sur RFI. Avant de retrouver Martin Guèze pour le journal, on fait un détour par les territoires français de l'océan Indien avec nos confrères de La Première. À la une ce matin, plus de deux mois après le passage de Chido, sept étudiants de l'école d'architecture de La Réunion se sont rendus à Mayotte pour réfléchir à la reconstruction du département. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Réflexion in situ sur la manière la plus pertinente et la plus durable de rebâtir ce qui a été détruit par le cyclone. Le travail de ces étudiants architectes a été présenté vendredi dernier dans l'hémicycle du Conseil départemental de La Réunion. Reportage Erwan Poney.
30 000 logements à construire avant la fin de la décennie. À Mayotte, les architectes ont du pain sur la planche et cela sur un territoire où seulement 4% des terres sont urbanisées. Espace classé oblige, mais aussi à cause du relief important sur l'archipel. Swahibou Bakar, étudiant en troisième année à l'école d'architecture de La Réunion.
Le terrain en pente, c'est général à Mayotte, mais spécifiquement à Doujani. Il y a les bidonvilles, ça ne résiste pas du tout au cyclone, on a déjà vu ce qui s'est passé avec Chido. Il y a aussi les enfants qui n'ont pas d'espace pour jouer, les familles qui n'ont pas d'espace pour se rencontrer, pour partager, pour échanger.
Sept étudiants se sont donc rendus à Mayotte et ont présenté à leur retour sept projets d'habitat adapté au changement climatique et au mode de vie. Avec une règle prioritaire, ne pas répéter les erreurs du passé. Ning Liu, architecte urbaniste et professeur à l'école d'architecture.
Construire Mayotte de demain, nous avons besoin d'innovation. Et c'est aussi de ne pas construire comme avant. Donc, avec les sept étudiants, notre objectif, c'est de réfléchir à l'habitat mahorais. Ils ont rencontré les habitants, les acteurs du territoire, ils ont fait des propositions et aujourd'hui, il faut que ces propositions soient réalisées.
Un travail d'étudiant intéressant selon le CAUE de La Réunion, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui travaille depuis plus de 40 ans sur le développement du bâti durable.
C'est une maladie qui concerne un habitant sur 10 à l'île de La Réunion. Le diabète, puisque c'est de lui qu'il s'agit, constitue donc, comme d'ailleurs un peu partout en Outre-mer, un très sérieux problème de santé publique. Hélas, favorisé par une surconsommation de produits beaucoup trop sucrés, à l'initiative d'associations de patients, un village consacré au diabète accueillait ce week-end le grand public à Saint-Denis. Reportage Marie-Ange Frassati.
Le diabète, Tatiana ne l'a pas vu venir. 3 ans qu'elle est amputée parce qu'elle s'est abîmée les artères. Si elle avait su qu'elle en deviendrait handicapée, elle reconnaît aujourd'hui qu'elle aurait mieux géré son équilibre alimentaire.
Pendant les 10 premières années, j'étais dans le déni. Et aujourd'hui, je suis amputée à cause de cela. Je ne faisais pas attention. Pour vous dire, la norme, c'est 0,8. Moi, je suis rentrée à l'hôpital, mon taux était à 23. On se demandait comment j'étais encore en vie.
Plusieurs stands, dont celui de l'hôpital d'enfants, proposent de l'information sous forme d'ateliers.
Si vous essayez de manger 10 carrés de sucre, comme ça, vous arriveriez peut-être même pas. Hein.
Non.
Il y a 10 carrés de sucre dans une bouteille de coca.
Une surprise, c'est une surprise. Oh là là.
Une maladie de longue durée dont les effets sont atténués par les progrès technologiques. Aujourd'hui, 100 000 personnes en France vivent avec une pompe à insuline.
C'est vraiment une révolution thérapeutique et tous les diabétiques de type 1 devraient pouvoir être traités de cette façon-là. Il y a des patients qui veulent rien sur eux, donc là évidemment c'est une limite, mais on leur dit, ceux qui sont réticents, de faire l'essai et l'expérience montre que plus de 90% de ceux qui ont fait l'essai finalement, ils acceptent tellement leur qualité de vie est améliorée.
Autre argument en faveur de la pompe à insuline, non seulement elle permet de prévenir les complications du diabète, mais cela restaure aussi l'insouciance, ou presque, dans la vie du diabétique.
Fin de cette édition. Bon début de semaine. Bonne journée.
Et bonne journée à vous aussi, Benoît. Et c'est ainsi que s'achève cette édition consacrée à l'actualité africaine, préparée et réalisée ce matin avec Mathieu Degueldre et Xavier Besson. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle notre édition spéciale tout à l'heure consacrée aux 3 ans de la guerre en Ukraine. Andréane Mellard est à Kiev. Rendez-vous à partir de 6h10, temps universel. D'ici là, vous restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le journal sur RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.
Lamas Rock, Jarin FX et RFI Talent présentent Zar Elitri. Découvrez Sarah Niel, le deuxième single du trio franco-marocain de Marseille. Disponible sur toutes les plateformes.